Le rôle du Canada dans la pérennité de l'apartheid israélien, bien, ça suppose au départ qu'on ait peut-être une petite idée, faire un petit retour sur la politique canadienne depuis en fait le début du siècle. Alors, c'est juste quelques moments assez importants. On se souviendra bien sûr que le Canada a voté pour la partition de la Palestine. Avec, vous savez qu'elle a été votée, cette partition-là, à une très courte majorité, et qui était déjà un objet de controverse à l'époque, mais le Canada s'est rangé avec l'ensemble des puissances occidentales de ce côté-là. Jusqu'à 1957, à peu près, avec Saint-Laurent, Pearson, déjà le Canada se rangeait du côté des États-Unis. Avec cette espèce de règle d'or-là, entre guillemets, qu'on peut appuyer à l'ONU, on peut appuyer les États-Unis, on peut s'abstenir, mais on ne peut jamais voter contre les États-Unis. Ça a été une politique qui a été constante dans toute l'histoire des votes au Conseil de sécurité et à l'Assemblée des Nations Unies. Il faut s'en souvenir parce que, vous allez voir qu'avec Harper, on va plus loin que ça, mais il reste que c'est cette espèce de pierre, de règles d'une certaine façon. Alors, cette espèce de mythe ou d'idée que le Canada avait une politique de médiation, de négociateur, de balance entre les deux, qui faisait justement la balance entre deux belligérants, pas du tout d'égale force, etc. C'est un mythe qui vient avec le mythe du Canada lui-même, si on veut, de sorte que il y a des fondements assez historiques, encore une fois, à l'appui du Canada aux États-Unis, donc à Israël. Il reste que, par ailleurs, dans la période de PET, c'est-à-dire Pierre-Éliott Trudeau, dans les années 68-87, c'est lui quand même qui a initié les premiers contacts avec l'OLP et qui a reconnu la légitimité, comme l'avaient proclamé les Nations Unies au moment de la partition d'ailleurs, de la légitimité d'un État palestinien vivant en sécurité à côté de l'État israélien, et qui avait appuyé aussi la résolution 242 un peu plus tard, quand il y a eu la guerre des six jours, c'est-à-dire le droit de retour et le retrait des territoires occupés. Alors, Trudeau a quand même appuyé cette politique-là, et il réclamait aussi le démantèlement des colonies. On était peu après la guerre des six jours, la colonisation a commencé de façon très importante. Il a tout de suite demandé le démantèlement des colonies. En 82, quand il y a eu l'invasion du Liban par Israël, une invasion qui a duré, comme vous le savez, 10 ans, une dizaine d'années, il a été le premier à dénoncer l'agression israélienne en demandant le retrait immédiat et inconditionnel des forces israéliennes. On voit évidemment la différence avec Ignatieff et avec Harper sur un type de même invasion en 2006, à peu près 30 ans plus tard. Les politiques sont complètement différentes. Lui, il dit tout de suite non. Et Trudeau avait développé une sorte d'antipathie face au lobby pro-israélien, au point qu'il refusait catégoriquement de rencontrer le Conseil, le Congrès juif canadien. Il a eu comme politique de se tenir à distance par rapport à ça. Alors ça, je dirais que c'est peut-être la plus belle période, d'une certaine façon, d'une forme d'autonomie et d'indépendance de Trudeau, qui gardait aussi, d'une certaine façon, ses distances au nom de l'autonomie canadienne envers les États-Unis. On pourra discuter de ça après, si vous voulez, mais il reste qu'il y a eu cette période-là. Mais tout de suite, quand Mulroney revient au pouvoir, là, il y a un rapprochement quasi automatique avec Israël et avec Bush, père, évidemment, autour de la question du libre-échange. Chrétien va tenter de garder un petit peu ses distances, du moins c'est ce qu'on lit dans la littérature que j'ai lue là-dessus, face au lobby pro-israélien, mais il reste que c'est lui quand même qui va inscrire le Hezbollah comme organisation terroriste parmi la liste des organisations terroristes, refusant de voir le Hezbollah comme un mouvement de résistance à l'occupation. Martin, lui, continue de creuser la hache, si on veut, d'une politique canadienne de plus en plus pro-américaine et de plus en plus pro-israélienne. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque-là, mais c'était Graham qui était le ministre des Affaires extérieures, et Martin l'a changé. Il a tout simplement changé de place parce que ce monsieur Graham n'aurait pas été, citation, assez ferme dans sa politique d'appui aux Israéliens dans les territoires occupés et beaucoup trop ouvert au monde arabe durant cette époque-là. Et il l'a mis à sa place, vous devinez qui? Monsieur Petitgrou, un inconditionnel de la politique israélienne. En 2004, les conservateurs sont toujours au pouvoir et le Canada vote contre la résolution qui condamne la construction du mur de séparation. Vous savez que la Cour internationale de justice a condamné ce mur. Le Canada a voté contre cette résolution-là, qui était en fait la confirmation de la tendance du gouvernement Mulroney. La politique extérieure du Canada devient de plus en plus, face au Moyen-Orient, elle devient façonnée dans les capitales étrangères, en particulier évidemment aux États-Unis, et avec l'appui du Canadian Council for Israel and Jewish Advocacy. C'est-à-dire que l'influence du lobby pro-israélien prend de plus en plus d'ampleur dans ce gouvernement-là, au détriment même de l'expertise du ministère des Affaires extérieures. Il y a un débalancement complet d'influence en termes de construction de politique. En janvier 2006, Paul Martin, annonce dans un discours qui a eu assez de répercussions, les valeurs d'Israël sont les valeurs du Canada. Harper continue dans cette ligne-là. Et à un point tel que le Canada devient une sorte d'appendice du gouvernement Bush en particulier. Donc, le Canada, contrairement à ce qui s'est passé dans la très courte période de Trudeau, s'est confirmé non pas comme un acteur politique qui aurait pu faire une différence sur la scène internationale, pour peser de façon différente dans le rapport des forces politiques, mais il est devenu un belligérant comme les autres et un belligérant pro-israélien et pro-américain à ce niveau-là. Quand on regarde les politiques actuelles du gouvernement Harper, en particulier, si vous allez, c'est intéressant d'aller vous avez sûrement été toutes là, sur le site de la politique canadienne sur les aspects du conflit israélo-palestinien. C'est intéressant de voir que, alors que toutes les autres politiques sur la question de l'occupation, sur la question de la colonisation, sur la question du statut de Jérusalem, etc., en principe, le Canada est tout contre ça et pour le droit international. Or, ce qu'on a présentement comme politique, la première déclaration que vous avez sur le site Internet du Canada, c'est un appui en faveur d'Israël et de sa sécurité. Donc, le premier message qu'on donne à la population canadienne, c'est voilà, ce qui est important, c'est la sécurité d'Israël. Donc, il reconnaît son droit à assurer sa propre sécurité et Dixit Harper, finalement, parce que c'est lui qui parle, comme nous l'avons démontré en l'appuyant lors du conflit avec le Hezbollah en 2006 et en soutenant continuellement son combat contre le terrorisme. Donc là, le gouvernement Harper montre de façon très, très clairement que son choix est fait et il s'est conforté. En vertu du droit international, Israël est en droit de mettre en œuvre les mesures nécessaires, toutes les mesures nécessaires, en conformité avec les droits de la personne et le droit international, on s'en sert du droit, hein, afin de protéger ses citoyens contre les attaques de groupes terroristes. Il n'y a pas encore un mot sur les Palestiniens dans cette déclaration-là. Et tous les moyens sont bons pour assurer la sécurité d'Israël. Le Canada et Israël sont liés d'une amitié indéfectible. Une amitié indéfectible. Pourquoi pas avec les Palestiniens, une amitié indéfectible avec les Palestiniens, pourquoi pas avec d'autres peuples, hein? Mais avec Israël, l'amitié, on la retrouve dans la motion Oupal qui est pendante devant la Chambre des communes, un député conservateur qui veut faire passer une motion à l'heure actuelle déclarant Israël l'ami inconditionnel, déclarant le Canada ami inconditionnel d'Israël. Hein, cette espèce de lien organique, si on veut, lié d'une amitié indéfectible et qui entretient des relations bilatérales solides qui vont en grandissant, basées sur des valeurs communes, notamment la démocratie. Or, quand on regarde un certain nombre d'ouvrages et de recherches sur est-ce que Israël est un État démocratique, bon, on pourra voir Shlomo Sand, entre autres, mais on peut être en désaccord avec certaines de ses conclusions, mais il reste qu'il fait état d'un certain nombre d'études sur le fait qu'un État juif peut-il être un État démocratique en même temps. Hein? Et il fait état, entre autres, d'une étude d'un sociologue Samoa, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, qui, dans les indicateurs de la démocratie, classe Israël au bas de la hiérarchie des régimes démocratiques, comparant méthodiquement Israël aux démocraties libérales, républicaines, polysociales et pluriculturelles, y conclut à l'impossibilité de l'assimiler à aucune d'entre elles. Israël se retrouve ainsi dans la catégorie des régimes qui peuvent être définis comme des démocraties incomplètes ou de qualité inférieure, avec des États comme l'Estonie, la Lettonie, la Slovaquie, etc. Et plus loin, il conclut, vu que Israël n'est pas une démocratie, mais une ethnocratie, ce que Jeff Halper aussi appelle ainsi. Or, si on a des valeurs communes, si on partage la démocratie, si le Canada est l'ami inconditionnel de ce type de démocratie-là, où nous en allons-nous avec ça? Hein? Et bon, je ne vais pas revenir sur la question des Autochtones parce que vous l'avez fait très bien dans la déclaration, mais bien sûr que le Canada a un déficit et un handicap sérieux par rapport aux peuples autochtones ici. Et oui, c'est pas pour rien que le Canada s'est prononcé d'ailleurs contre la déclaration des droits des peuples autochtones à l'ONU, toujours, hein, parce qu'il y a cette tendance-là de la part des conservateurs en particulier à reconnaître des formes de démocratie, disons pour le moins, incomplètes et controversées. Pour ce qui est toujours dans les positions actuelles du gouvernement canadien, il considère que c'est l'autorité palestinienne et qui est l'entité gouvernementale qui gouverne la Cisjordanie et Gaza. C'est écrit noir sur blanc. Faisant fi complètement des élections démocratiques sous haute surveillance internationale qui a eu lieu, que ça fasse ou non l'affaire des Canadiens, on s'en fout. Les Palestiniens ont voté pour le Hamas d'une façon démocratique, sauf que pour ces gouvernements-là occidentaux en particulier, ils n'ont pas voté du bon bord, comme on dit, et ça a amené, de la part du gouvernement Harper, à être le premier à dénoncer ces résultats-là et à annoncer déjà qu'il n'allait plus du tout subventionner ou ou donner de l'argent à l'autorité palestinienne tant que le Hamas va être dans le décor. De sorte qu'à l'heure actuelle, ce que fait le gouvernement Harper, c'est de continuer à agrandir cette division-là en favorisant le Fatah de Hamas, l'OLP de Fatah, et en excluant l'OLP, qui d'ailleurs est considéré toujours comme un groupe terroriste et non pas lui aussi comme une force de résistance à l'occupation. Ça a des conséquences assez importantes, hein, parce que quand une délégation de parlementaires canadiens sont allés en août dernier, Mme Davis et M. Nadeau du Bloc, l'un du Bloc et l'autre du NPD, sont allés à Gaza, effectivement, mais le député libéral, lui, s'est fait dire carrément « Vous n'allez pas là » par son parti politique, les libéraux, censés être, soi-disant, pour certains, l'alternative aux conservateurs à l'heure actuelle. « Vous n'allez pas là parce que ce gouvernement-là est un gouvernement terroriste non reconnu par le gouvernement canadien. » Alors, ça aussi... comme conséquence que ce que le Canada fait sur la scène internationale, encore une fois, c'est de pousser ces divisions-là, de sorte qu'il y a peu de voies possibles, si on veut, pour une politique conséquente qui pourrait mener à des négociations intéressantes, à une reprise du processus de paix, entre guillemets, à partir du moment où tu exclus nommément un des acteurs importants, un acteur politique du jeu de la négociation, tu viens de fausser complètement tout le tableau. Et c'est exactement ce que le Canada fait à l'heure actuelle. Bon, on pourrait continuer ainsi longtemps. Je vous invite à aller lire ces pages inspirantes de notre gouvernement. Et pour nous amener à les critiquer aussi de façon importante. Autre aspect de la complicité, d'une certaine façon, c'est le fait que, à l'heure actuelle, le gouvernement Harper est en compétition avec les libéraux sur à qui serait le plus pro-israélien. Alors, vous avez vu les tactiques assez spéciale et assez particulière des conservateurs pour aller voler l'électorat et l'argent de la communauté, des communautés juives partout à travers le Canada pour venir, pour faire du parti conservateur le parti refuge des communautés juives. Et toutes les tactiques sont bonnes pour faire ça, dont en particulier de la part des conservateurs, une surenchère aux pro-Israël et aux pro-lobby israéliens. Donc, c'est des tactiques très dangereuses et qui vont avoir des conséquences très importantes sur la politique extérieure canadienne. Le Canada se fait le complice des politiques d'apartheid. Moi, je ne rentre pas dans ça, je suis lié, on va le faire dans le débat après. Pour moi, de quatre façons. La première, c'est ici même au Canada, dans leur position par rapport aux peuples autochtones. On n'ira pas plus loin dans ça, mais ce serait intéressant qu'on y revienne dans le décor parce que ce n'est pas pour rien que... Il appuie aussi les politiques d'apartheid en Israël. Deuxièmement, par l'omission et le silence. C'est-à-dire que, alors que les politiques du gouvernement canadien depuis 1948 disent non à l'occupation, non à la colonisation, etc., etc., ce que le gouvernement canadien fait, c'est qu'il laisse Israël réaliser ce que Sharon a fait, c'est-à-dire la politique des faits accomplis. Warshawski nous avait, Michel Warshawski nous avait bien expliqué ça à la délégation quand on était allé. La frontière d'Israël, c'est là où on trace le dernier sillon. C'est la politique des faits accomplis et tous les pays occidentaux, le Canada y compris, accepte de façon passive, silencieuse, c'est en fait une vraie politique, ça, de l'acceptation, toutes ces violations du droit international et du droit des Palestiniens. Donc, c'est la politique du fait accompli, et je prends, pour aller dans votre sens, une citation tirée de Benjamin Barthes, « La Palestine, une nation en morceaux », où en 73, on a mis ça dans notre rapport de délégation aussi, en 73, le petit-fils de Winston Churchill demandait à Ariel Sharon comment Israël devait se comporter avec les Palestiniens. En 73, le futur premier ministre israélien, qui n'était sûrement pas dans le coma à ce moment-là, a dit « Nous ferons d'eux un sandwich au pastrami. Nous insérerons une couche de colonies juives parmi eux, puis une autre couche de colonies, et encore une autre, si bien que dans 25 ans, ni les États-Unis, ni les Nations Unies ne seront capables de séparer les uns des autres. » 30 ans plus tard, qui oserait dire qu'il n'y a pas eu raison, que ce n'est pas cette politique-là qui est... et qu'elle a visé à rendre irréversible... Il n'y a jamais rien d'irréversible, on verra. Mais elle vise à rendre irréversible toute attitude par rapport aux colonies existantes. De sorte que le mot « démantèlement des colonies » qu'on voyait apparaître dans la politique canadienne dans les années 80, fin des années 70-80, il apparaît même plus. Maintenant, on va négocier le sort des colonies. Ce qui est une toute autre perspective. En fait, ça veut dire qu'il faut accepter que les colonies restent là, sont là pour y rester, vont même s'agrandir. Et Netanyahou a été d'une honnêteté, puis d'une limpidité, puis d'une clarté exemplaire face à Obama. Quand on était à Jérusalem, le Jérusalem Post titrait « J'ai dit à Obama, dit Netanyahou, que les colonies sont là pour rester, qu'il n'y aura aucun arrêt de la colonisation, qu'on en a besoin pour notre croissance naturelle, etc., etc. » Donc, c'est clair. Et le Canada ne dit strictement rien, ne s'oppose pas. Vous n'avez jamais entendu Harper, même dans les partis d'opposition, s'opposer de façon importante, solide, un peu musclée à cette attitude-là. Jamais, jamais, jamais. Il laisse aussi, quand je dis par l'omission, par le silence, par la complicité, il laisse Israël mépriser l'ONU et le droit international. Vous savez qu'Israël a toujours eu, par rapport à l'ONU, Israël n'aime pas l'ONU. Golda Meir disait « l'ONU, mon cul ». Avec la délicatesse qu'on connaît à cette dame. Mais il reste que toute la question du droit international n'est à peu près ou pratiquement pas reconnue comme s'appliquant à ce qu'Israël fait à l'heure actuelle. Alors, comment ça se fait qu'un pays comme le Canada, qui se dit un pays de droit, qui est membre et signataire d'à peu près toutes les conventions, comment ça se fait que le Canada, pas tout seul, mais le Canada, entre autres, accepte qu'on fasse ce sort-là au droit international? Et troisième omission importante, il laisse le lobby pro-israélien déployer ses attaques de façon systématique et de plus en plus contre des institutions démocratiques. Et ça met en péril les droits et libertés fondamentales. Donc, je ne reviendrai pas sur droit et démocratie, sur Caïra, sur la Fédération canado-arabe, sur une série de faits. Il y a d'ailleurs une lettre qui va circuler, qu'on va vous inviter à signer, mais qui dénonce le sort qui est fait aux droits et libertés, entre autres par l'influence du lobby pro-israélien. Une autre façon pour le Canada d'appuyer, c'est la dénoncer. Cette fois-ci, ce n'est pas l'omission puis le silence, c'est au contraire la dénonciation et des votes d'opposition dans les instances internationales. Alors, le Canada n'est pas allé à la conférence de Durban, qui l'a traité lui-même d'antisémitisme, carrément. Le Canada s'est prononcé contre le rapport Goldstone, vous savez aussi. Le Canada s'est prononcé contre les résolutions de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, qui voulait condamner tout ce qui s'était passé à Gaza, entre autres. Le Canada vient aussi de couper les fonds à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Décider que plus d'argent de ce côté-là. Ça c'est des gestes très positifs, bizarres, hein? Quand vient le temps de s'opposer à des violations de droits, le silence le plus absolu, le plus total. Quand vient le temps de se prononcer sur des rapports ou des exactions qui ont été faits, là, on y va fort, puis on appuie, on se prononce contre en général. Enfin, une autre, la quatrième façon, c'est par son accord Canada-Israël, au plan économique, au plan du libre-échange, et en particulier aussi sur l'entente sur la sécurité publique contre le terrorisme. C'est une entente particulière qui a été signée avec Israël en mars 2008. Ces ententes-là en supposent une proximité quand même, une proximité importante de fonctionnaires, de plusieurs niveaux de gouvernance, une interaction, des échanges, une transmission de culture et d'idéologie. Tu sais, ces accords-là, ce n'est pas juste des accords que tu signes une fois devant une caméra. Là. Il y a toute une machinerie lourde qui les met en application, qui les réalise, qui les évalue, etc., de sorte que l'interpénétration est assez importante. Alors, évidemment, Israël n'a pas attendu n'a pas attendu le Canada pour développer sa politique d'apartheid, mais il a besoin du Canada et de l'Occident pour la maintenir par ailleurs. Durant toutes ces années, le Canada a assisté impassible à ce que, dans notre rapport, on apprenne la disparition programmée des Palestiniens en tant que peuple. Il y en a qui ont appelé ça, qui appellent ça un sociocide et un génocide. La définition du génocide telle que l'ONU l'a mis de l'avant s'applique au peuple palestinien. De sorte que ces positions-là du Canada passives, hein, et exclusivement en faveur de la sécurité d'Israël ont contribué à la situation qu'on a aujourd'hui, qui est celle d'une quasi-disparition. Mais c'est les Palestiniens qui vont changer cette situation-là. Oui, il me reste 5 minutes. C'est ça. Un autre aspect, c'est que le Canada n'est pas seulement l'ami inconditionnel d'Israël. Il se veut de plus en plus semblable à Israël, au point de, dans certaines de ses réactions, de devenir Israël. Va-t-on contredire un ami aussi important qu'Israël? Quand on affirme avoir les mêmes valeurs qu'Israël, qu'est-ce qu'on fait si ce n'est adopter, appuyer les mêmes politiques, dont celle de l'apartheid? Plus dangereusement encore, Harper se range dans le camp de ceux qui assimilent toute critique d'Israël à de l'antisémitisme. Je vous apprends strictement rien. Mais l'autre règle claire, outre le fait de ne jamais voter contre les États-Unis, c'est de ne jamais critiquer Israël. On ne critique jamais Israël d'aucune manière, que ce soit modéré, diplomatique, etc. Jamais, jamais il ne faut critiquer Israël. Hein? Il a suffi de quelques mois, quand Saddam Hussein a mis le pied au Koweït, hein? Envahi le Koweït, hein? Il a fallu quelques semaines à toute la quincaillerie lourde de l'OTAN pour le sortir de là au nom du droit du droit à l'autodétermination des peuples, dans le fond, à la souveraineté des nations et des États. Ça fait une soixantaine d'années que Israël agit comme un peuple colonisateur et il y a un silence.
Madame Guy, c'est important ça.
C'est parce que
l'ambassadrice américaine avait invité Saddam à dire on n'intervient pas en Irak. Ça, il faut soulever ça, madame.
Oui, oui, OK.
C'est l'invitation aussi.
Dans la période de questions, s'il vous plaît, monsieur.
Comme vous
voulez. Et toutes les forces des pays occidentaux et la communauté internationale restent d'un immobilisme et d'un silence de mort, si on veut, par rapport à Israël. C'est une complaisance qui frise l'indécence, là, on pourrait s'indigner, mais qui frise aussi le racisme. Si la situation était inverse, hein, si c'était les Palestiniens qui occupaient Israël, ou des peuples arabes qui occupaient Israël, ça ferait très longtemps, hein, que les États-Unis auraient été là, que l'OTAN aurait été là pour cesser cette... Mais l'inverse n'est pas vrai. Oser critiquer Israël aussi, on n'a pas le droit de faire ça parce que ce serait faire affront aux victimes de l'Holocauste. Et là, c'est oublier, bien sûr, que le projet sioniste date de la fin du 19e siècle. Il n'est pas né avec l'Holocauste. C'est oublier que la création de l'État d'Israël n'a même pas fait l'unanimité dans la communauté juive de l'époque. Vous savez qu'il y a plusieurs juifs qui étaient contre la création d'un État israélien. C'est oublier que bien des malheureuses victimes de l'extermination terrible seraient horrifiées de ce que les gouvernements israéliens font à leur nom. C'est oublier, comme le rappelle justement un historien juif, Judy Jun, trop de Shoah tue la Shoah. Israël, depuis sa naissance, l'État d'Israël entretient des rapports complexes avec la Shoah. Mais ces dernières années, la relation entre Israël et l'Holocauste a changé. Aujourd'hui, lorsque le pays s'attire des critiques internationales en raison des mauvais traitements qu'il inflige aux Palestiniens et de son occupation des territoires, ses défenseurs préfèrent mettre en avant la mémoire de la Shoah. Si vous critiquez Israël trop vigoureusement, vous allez réveiller les démons de l'antisémitisme. Et les critiques trop vives ne font que réveiller l'antisémitisme. Elles relèvent de l'antisémitisme. Et avec l'antisémitisme, la voie est ouverte pour qu'il y ait un autre holocauste. C'est ça le leitmotiv. Puis ça revient constamment, ce leitmotiv-là aussi. Cet historien-là dit « Je comprends les émotions qui motivent de telles affirmations, mais celles-ci sont extraordinairement dangereuses en soi. C'est précisément ce tabou qui risque d'attiser l'antisémitisme. » Et ces politiques-là, à l'heure actuelle, entre autres, même si elles sont inacceptables, qui font en sorte qu'il y a une montée d'antisémitisme dans certains coins du monde, et chez certaines personnes, c'est pas plus acceptable. On est contre l'antisémitisme, contre le racisme. Mais des politiques comme ça ne font que l'attiser en criant l'antisémitisme. À chaque fois que quelqu'un attaque Israël ou défend les Palestiniens, nous fabriquons des cyniques. Lorsque nous fouillons dans le passé à des fins de profit politique, en triant des bouts qui peuvent nous servir et en chargeant l'histoire de donner des leçons de morale opportuniste, nous obtenons tout à la fois une mauvaise moralité et une mauvaise histoire. Et quand le gouvernement Harper laisse passer des motions, ou s'appuie des motions comme Upal vient de présenter, comme on laisse passer ça comme si ça allait de soi, toute critique d'Israël, la motion Upal dit que non seulement que le Canada est un ami d'Israël, mais que toute référence à l'apartheid israélien est de l'antisémitisme. Donc, évidemment, la semaine contre l'apartheid est aussi une manifestation d'antisémitisme. Si vous pensiez que Ignatieff disait mieux, pas mieux, je ne vais pas vous lire sa lettre de l'an dernier, une diatribe en règle contre la semaine anti-apartheid au nom des valeurs canadiennes et justement avec les mêmes arguments. Alors, je termine en disant que il n'y a pas d'avenir, bien sûr, ni pour les Palestiniens, ni pour les Israéliens, ni pour nous dans cette direction, dans cet appui de l'Occident à l'impunité. L'impunité d'Israël, c'est notre impunité à nous, occidentaux, parce que Israël, c'est le visage de l'Occident au Moyen-Orient. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'ils se sont définis. Hein? Ils étaient le phare de la civilisation dans ce monde barbare et affreux et terroriste que sont évidemment les arabo-musulmans et compagnie. Israël, le phare de la démocratie dans ce monde justement barbare que serait le monde arabe. Israël, le fer de lance de ce que Robert Fisk a appelé la grande guerre pour la civilisation, c'est-à-dire la conquête par l'Occident du Moyen-Orient. Guerre encore coloniale qui continue de se faire aujourd'hui. Alors nous payons, et surtout les générations futures vont payer cher et un prix très élevé pour ce type de politique-là, la nôtre comme celle des pays occidentaux à l'heure actuelle, ces politiques guerrières et racistes. Alors, à nous d'y mettre fin.